Radio Okapi.
Non à la guerre, stop à la perturbation éducationnelle, la paix ou rien, monsieur le président venait répondre à notre inquiétude. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes portées par des élèves en sit-in aujourd'hui devant la mairie de Beni, une manifestation bien encadrée par la police pour éviter les dérapages. Le gouvernement Samalou Kondé sera bel et bien investi incessamment, assure le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mboso réagit ainsi face au débat engagé par les députés révolutionnaires sur les déséquilibres constatés dans la composition du nouveau gouvernement. Et puis, l'invité de ce midi, Jacques-André Kabuit, commissaire général à l'Observatoire africain pour les sanctions positives et les valeurs de la paix. Il explique notamment la procédure engagée par son institution pour décerner le prix de l'ambassadeur de la paix à Jean-Lucien Boussa et à d'autres personnalités du pays. Madame, messieurs, bonjour. Ce journal part de Beni. Les élèves ont de nouveau envahi la cour de la mairie ce jeudi pour réclamer le retour de la paix, la reprise des cours sans interruption, mais aussi la présence du chef de l'État dans la région pour décanter la situation sécuritaire. Exceptionnellement, aujourd'hui, ils ont été accompagnés par quelques-uns de leurs parents, ainsi que la population de la ville de Beni. Une manifestation bien encadrée par la police pour éviter les dérapages. C'est ce que nous dit Marc Marofimbo.
Non à la guerre, oui à l'éducation, stop à la perturbation éducationnelle, paix ou rien, monsieur le président venait répondre à notre inquiétude, non au recrutement des enfants dont les groupes armés ont vu aller à l'école. Ce sont là quelques messages qu'on pouvait lire sur les pancartes que portaient les élèves assis devant la mairie de Beni ce jeudi. Martine Riziki, l'un d'eux, explique les raisons de ce sit-in.
Nous réclamons d'abord notre droit. Nous avons le droit d'étudier dans une situation de paix. Nous voulons que le président puisse venir ici à Beni comme nous l'avons appelé. Nous avons besoin de l'exprimer ce que nous voulons. Nous voulons que le président Félix Antoine Tshisekedi puisse venir ici à Beni. Écoutez ce que nous avons à lui dire. Nous pleurons, nous restons orphelins chaque jour. Nous n'avons pas de maison. Nos parents sont assassinés, nos maisons brûlées. Nous n'allons pas continuer à vivre comme ça dans cette situation. S'il ne vient pas aujourd'hui, on va rester ici à la mairie jusqu'à ce qu'il puisse venir. On va dormir ici, même si la police va crépiter de balles, on va mourir pour notre pays, on va rester.
Signalons que lundi dernier, ces élèves avaient promis revenir dans 72 heures pour un sit-in illimité si leurs revendications n'étaient pas prises en compte. La police a encadré cette manifestation pour éviter toute infiltration des radicalistes et prévenir tout dérapage. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, la série de manifestations décrétées depuis le 5 avril dernier à Beni pour exiger le retour de la paix se poursuit. Aujourd'hui, une circulation presque ordinaire des mototaxis ainsi que des véhicules des particuliers est observée dans la ville. Cependant, les portes commerciales sont toujours fermées, excepté les alimentations et les officines pharmaceutiques. Les barricades sont encore visibles dans les quartiers périphériques de la ville, surtout ceux de l'est à Malépé et à l'ouest à Kalinda. Signalons également qu'une délégation des députés nationaux séjournent dans la ville afin de s'imprégner de la situation sécuritaire pour une solution durable. Nord Kivu toujours, la base de la MONUSCO Lubero, visée par une attaque la nuit dernière par des hommes armés non autrement identifiés, un militaire FARDC a été tué et son arme récupérée. Sadiki Aboubakar nous raconte.
L'attaque a eu lieu vers 20h locale. Des sources sur place rapportent que les assaillants ont attaqué le poste de l'unité commando FARDC venu renforcer la sécurité de la base de la MONUSCO à Lubero. Il y aurait eu des tirs, puis suivra la riposte des FARDC par d'autres tirs nourris. Un soldat sera tué et son arme récupérée. Notre source affirme que les assaillants se sont ensuite volatilisés sans laisser de traces. L'administrateur du territoire de Lubero qui confirme ce bilan indique que l'identité des assaillants n'est jusque-là pas connue. Richard Nyembo affirme tout de même qu'un calme relatif s'observe ce jeudi dans la zone et que les services de sécurité sont mobilisés pour en savoir plus, ajoute-t-il. Rappelons que cette partie du territoire de Lubero est en proie à l'insécurité créée par plusieurs groupes armés, dont des Maïmaï Mazembe. Quelques observateurs pensent que la présence militaire FARDC en ces lieux constituerait un obstacle, les empêchant de saboter la base locale de la MONUSCO. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction du commandant des opérations Sokola 1 Axe Sud à ce sujet. Boutembo, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Butembo, les activités scolaires ont repris normalement dans la majorité des écoles conventionnées, notamment catholiques et des écoles privées. C'est dans des écoles publiques où l'on remarque encore des absences d'élèves. Dans les écoles primaires et secondaires de la vallée de Kavaindi, par exemple, le nombre d'élèves atteint difficilement la moyenne des effectifs. Les chefs d'établissement rencontrés espèrent à une reprise normale le lundi prochain. Du côté des activités commerciales, tout a repris dans la ville, sauf des grandes maisons de commerce et toutes les boutiques se trouvant dans des galeries qui n'ont toujours pas ouvert leurs portes. En Ituri, des miliciens de la Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC ont attaqué ce matin le camp militaire des FARDC à Marabo, 40 km au sud de Bounia sur la nationale numéro 27. Selon des sources sécuritaires, les forces loyalistes ont réussi à repousser ces miliciens et des combats se poursuivent en ce moment sur l'axe Nyakunde, village voisin occupé depuis 5 jours par la FPIC. Conséquence, le trafic est suspendu sur la nationale numéro 27, axe Bounia-Komanda. Martial Kiza, reportage.
C'est vers 6 heures que des hommes armés identifiés aux éléments de la FPIC à provenance de Nyakunde ont attaqué les campements des FARDC à Marabo. C'est là pour la deuxième fois en moins de 5 jours. Des sources sécuritaires rapportent que les forces loyalistes qui étaient alertées sur la planification de l'attaque de leur position ont directement répliqué. À moins d'une heure de temps, les FARDC ont réussi à repousser ces miliciens loin de leur base vers l'église catholique de Marabo. Ces assaillants se sont retirés de Nyakunde, un centre médical qu'ils occupent depuis 5 jours. Un vers local, grâce au renfort des commandos venus de Bounia, les FARDC ont lancé une offensive contre les éléments de la FPIC. À ce moment, des combats sont toujours en cours. Entre-temps, le trafic est suspendu sur la route nationale numéro 27 sur l'axe Bounia-Komanda. Des véhicules qui ont quitté Bounia ce matin sont stationnés vers Dili et Tchaï, à la sortie de Bounia. Les transporteurs qui nous avons interrogé, demande à l'armée de tout faire pour assurer la sécurité sur cette route nationale, la celle qui relie Bounia au Nord Kivu et à Kisangadi. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Sachez aussi qu'au troisième jour de la ville morte décrétée par la coordination de la société civile de l'Ituri, les activités économiques restent paralysées au centre-ville de Bounia. Les écoles, maisons de commerce et institutions bancaires sont toujours fermées. Cependant, les marchés sont opérationnels depuis mercredi après-midi, mais les activités tournent au ralenti. Par contre, dans d'autres quartiers de Bounia, la vie se déroule normalement. La société civile de l'Ituri s'est dit satisfaite et félicite la population pour le respect de son mot d'ordre pour interpeller le gouvernement sur la situation sécuritaire très préoccupante en Ituri. De leur côté, certains habitants déplorent les conséquences de ces journées ville morte, notamment la flambée des prix de vivres et des produits de première nécessité sur les marchés. Le débat engagé par les députés révolutionnaires sur les déséquilibres constatés dans la composition du gouvernement est une preuve de l'effectivité de la démocratie et de l'état de droit prôné par le chef de l'État. C'est en tout cas l'avis du président de l'Assemblée nationale exprimé hier au cours de la plénière. Christophe Mbosso a cependant rassuré la population congolaise qu'aucun député n'a conditionné l'investiture du gouvernement par quoi que ce soit. Il dénonce par ailleurs une campagne de diabolisation de ces députés révolutionnaires qui, selon lui, ont engagé un débat à l'interne au sein de l'Union sacrée et rassure que le gouvernement sera incessamment investi. Christophe Mbosso Kodiapwanga au micro de Michel Kifindangoy.
À une certaine époque non lointaine, personne n'aurait cru qu'au sein d'une même famille politique, ses membres peuvent lever les tons. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Union sacrée de la nation, les récents débats consécutifs à la publication du gouvernement ont prouvé à la face du monde que le débat interne est encore possible. C'est même cela l'essence profonde de l'état de droit et de la démocratie, cheval de bataille du président de la République. C'est aussi cela l'expression du droit à la différence, lequel fait la grandeur de notre chambre. Les honorables députés qui ont animé ce débat se sont adressés à l'autorité compétente, le président de la République, initiateur de l'Union sacrée de la nation. Vu sous cet angle, la diabolisation d'une frange d'élus nationaux n'a ni raison d'être, ni droit de citer dans notre hémicycle.
Rendons-nous à Goma. La force syndicale nationale Fosinat Nord-Kivu a salué la nouvelle de l'arrestation de l'ancien ministre de l'EPST qu'elle pense être à la base du dysfonctionnement du secteur de l'éducation en RDC. Pour son président Baala Chamavu, des enquêtes minutieuses doivent être ouvertes pour dénicher tous les autres responsables impliqués dans des malversations financières, notamment des rétrocommissions qui seraient perçues sur les frais de fonctionnement en province. Baala Chamavu, innocent, demande au gouvernement de n'est pas se limiter à son arrestation, mais de récupérer les fonds détournés afin de remettre les enseignants nouvelles unités dans leurs droits. Le président de la force syndicale nationale, Fosinat Nord-Kivu, dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
Nous les enseignants, nous sommes très satisfaits car pendant tout le temps qu'il a été à ce ministère, il a tué l'éducation dans ce pays. Et c'est là où nous sommes en train de dire, tous ces gens qui ont détourné l'argent du pays, tous ces provèdes, tous ces IPP, tous ces sous-provèdes, tous ces chefs d'antenne, qu'ils s'attendent aussi à ce genre de choses. Car l'air a sonné, l'état des droits ne va pas épargner personne. Et c'est pour cette raison que nous continuons à dire, les rétro-commissions qui se jouent au niveau du CECOP en matière de frais de fonctionnement, ça aussi nous continuons à décrier. Le DIPROTEC national doit s'enquérir de cette situation car il y a déjà des plaintes que l'argent des frais de fonctionnement qui arrive dans des directions provinciales, cet argent retourne encore à Kinshasa en partie. Et nous continuons à dire, tous les enseignants NI et NP ont déjà œuvré pendant longtemps. Et jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore payé. C'est à ces mots-là que nous sommes en train de dire, non seulement on a arrêté Willy Bakonga, mais aussi on doit confisquer ses biens pour remettre les enseignants NI et NP dans leurs droits.
Dans le Maïndombe, signalons la suspension hier des bourgmestres de toutes les trois communes de la ville d'Inongo par le gouverneur de province. Crispin Ipondo, porte-parole du gouvernement, fait savoir que ces chefs d'entité sont accusés notamment d'incompétence, d'insoumission à l'autorité provinciale et d'absence prolongée. Irène Mboma nous en dit plus.
Cette décision est rendue publique ce jeudi 21 avril par le ministre provincial des communications et porte-parole du gouvernement provincial du Maïndombe, Crispin Ipondo Banda. Selon lui, le gouverneur des provinces, Mputu Paul Boleilanga, a pris hier mercredi trois arrêtés portant suspension préventive de ses trois bourgmestres de toutes les communes de la ville d'Inongo. Il s'agit de Baudry Bolié Libolokote, de Henri Iula et de Kabengé Lenkole, respectivement bourgmestres de la commune de Bonse, d'Impolo et celle d'Impongonzoli. Crispin Ipondo Banda informe que plusieurs griefs sont mis à la charge de ces responsables des communes.
Nos amis, les trois bourgmestres, ils ont brillé par l'incompétence, l'insoumission, l'insubordination, par la désertion. Lorsque le gouverneur constate qu'un collaborateur marche à l'encontre des lois, brille par l'incompétence, la moindre des choses, il faut d'abord les suspendre.
Il s'est dénoté que dans ces arrêtés, la durée de la suspension n'est pas précisée. Néanmoins, ces trois chefs d'entité frappés par cette mesure ont chacun 20 jours pour se justifier. En attendant, leurs adjoints sont désignés pour assumer l'intérim. Irène Mboma, Bandunduville Radio, Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Tchad. L'armée est toujours déployée à N'Djamena, la capitale. Le pays est dans la tourmente depuis la mort du président Idriss Déby Itno. Son fils, Mahamat, est désormais le nouvel homme fort du pays, à la tête d'une junte militaire qui concentre tous les pouvoirs. Ce jeune général de corps d'armée de 37 ans a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Trois mois après le retour des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, le président Joe Biden invite 40 dirigeants mondiaux à un sommet virtuel ces 22 et 23 avril. Objectif, galvaniser les efforts des principales économies de la planète pour lutter contre la crise climatique. Il s'agit de Jacques-André Kabuit, ancien bourgmestre de la commune de Bandalungwa et actuellement commissaire général à l'Observatoire africain pour les sanctions positives et les valeurs de la paix. Il explique comment l'Observatoire africain pour la paix a procédé pour décerner récemment le prix de l'ambassadeur de la paix à Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, ainsi qu'à d'autres personnalités du pays. Il assure également la population sur les objectifs poursuivis par l'Observatoire et le gain qu'apporte le travail de cette organisation à la RDC. Jacques-André Kabuit s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur Jacques-André Kabuit, bonjour.
Bonjour.
Avec le prix accordé dernièrement au ministre Jean-Lucien Boussa, la liste des couronnés de votre organisation vient d'être rallongée. Quels sont justement les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour le choix des personnalités?
Bien, nous avons beaucoup de critères. Un des critères, c'est le leadership communautaire. Le deuxième, c'est la générosité et la solidarité. Le troisième, c'est le sens du devoir. Le quatrième, c'est le perfectionnisme. Et il y a aussi le sens de la solidarité, mais aussi le sens de la bonne gouvernance. Ça, c'est entre autres critères, 24 critères qui sont nominés et qui président à la nomination d'une personnalité pour arriver dans ce que nous appelons le carré, les carrés des meilleurs.
Apparemment, ce sont des critères aléatoires.
Bon, ce sont des critères aléatoires, mais attention, ça dépend de ce que vous mettez dans le terme aléatoire. Nous avons par exemple couronné une fois une dame qui ne parlait pas français, maraîchère de son état, Maman Mansanga de Ndjili Brasserie. Cette femme-là, elle avait le mérite d'avoir élevé ses 7 enfants après la mort de son mari et d'avoir envoyé tous ses enfants à l'université. Et cette femme-là, nous avons dit, elle méritait, elle était opposée à être couronnée parce qu'elle pensait à son revenu de 4 jours qu'elle allait rater si elle venait au couronnement. Nous lui avons donné et financé pour qu'elle soit, soit couronnée. C'est pour dire que nous ne choisissons pas que les gens qui ont les moyens. Nous faisons en sorte que les valeurs triomphe et la paix en premier.
Semble-t-il que votre organisation a été la première, avant le prix Nobel de la paix, à primer le docteur Mukwege. Avez-vous les sentiments de satisfaction, de meilleure observation?
Absolument, absolument. Le docteur Mukwege, c'est pour nous un être qui nous est cher. Il est détaché de la politique et il fait bien les choses. Et je pense que nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir pensé à lui. Et vous savez qu'il y a des gens pour qui nous sommes en train de penser aussi à les recommandé comme docteur honoris causa ou recommander d'autres aussi comme prix Nobel, etc. Mais cela ne peut pas être demandé ni mené de quelque manière que ce soit. Ce sont des critères que les professeurs des différentes universités qui font partie du jury sont obligés d'observer et de décider en toute indépendance.
Alors que fait exactement l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix?
Mais nous faisons beaucoup de choses. D'abord, nous nous inscrivons dans la promotion de la paix et puis nous nous inscrivons aussi dans la promotion des valeurs. Nous avons comme deuxième point, nous avons la compassion à notre actif. Nous avons avec Mwimba Texas d'heureuse mémoire, nous avons sauvé la vie à des enfants albinos qui étaient atteints de cancer et nous avons aussi sauvé le paiement des frais des enfants aveugles du centre handicapé et cet enfant notamment. Et tout ça, nous l'avons fait parce que nous pensons que quelques personnes de bonne volonté qui payent leurs droits pour qui sont contents de quand ils ont été récompensés, ils nous donnent un surplus et le surplus, on le destine à la compassion. Et l'Observatoire africain de la sanction positive et valeur de la paix, OASP, est le seul pont qui existe entre ses partenaires et les cliniques universitaires. Et nous sommes fiers de ça.
Alors, n'êtes-vous pas derrière l'argent ou derrière un groupe de pression?
Oh, d'ailleurs, si nous étions derrière l'argent, un homme comme le professeur émérite Machiala, vous ne voyez pas un homme comme le professeur émérite Weva Kabula, qui est professeur émérite à l'université Moncton du Canada, délaisser ses activités, venir s'associer à nous pour les beaux yeux de l'argent. Non, non, pas du tout. Au contraire, problème.
Mais qu'est-ce qui garantit alors votre indépendance?
Ben, je crois que c'est la détermination et surtout la foi dans ce pays.
Donc l'Observatoire africain pour les actions pérennes et les valeurs de la paix n'est pas seulement une association nationale, mais il a également la dimension internationale.
Eh ben, c'est le cas de le dire parce que le numéro 2 de notre association, Madame De Jong, elle n'est pas avec nous ici. C'est elle qui fait que quand nous avons couronné quelqu'un ici,
elle est aux États-Unis.
Elle fait tout ce qu'il faut pour que ces gens-là que nous couronnons parviennent à attirer attirer l'attention des associations qui
comme
sont...
ce fut le cas avec Mukwege.
Voilà, à ce moment-là, ils vont avoir de l'argent, ils vont être payés et nous en sommes fiers si ça n'est le cas. Nous sommes fiers de faire la promotion des gens que nous primons.
Monsieur Jacques-André Kabuit, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Je vous en prie.
Le commissaire général à l'Observatoire africain pour les sanctions positives et les valeurs de la paix, Jacques Kabuit, s'entretenait avec Gilles Lungembo. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Alain Rumushinj, coordination d'Élisée Chikotachi-Vuita. Merci de nous avoir suivis.